Nous sommes fortifiés maintenant. Notre point 4 est devant nous. Écrire à l'époque de l'Ancien Testament. Par l'archéologie des dernières décennies, on vient de découvrir ce qu'on a en fait toujours pu savoir par l'Ancien Testament. Israël est vraiment le peuple du livre. On a trouvé des centaines, plus de 1000 sceaux et empreintes de sceaux au Proche-Orient, c'est-à-dire en Israël. De l'époque de David, 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'à la captivité babylonienne et un peu après, donc jusqu'à 500 avant Jésus-Christ. Et on a réalisé, lorsqu'on a fait des découvertes, pas seulement en Israël, mais aussi en Jordanie, au Liban, en Syrie, que le plus grand nombre qu'on trouve se trouve en Israël. C'est absolument évident. Ce qui nous amène à comprendre que lire et écrire était courant en Israël, même parmi le peuple. Puisque les sceaux n'étaient pas simplement des images, mais les sceaux étaient donc avec des inscriptions, avec des lettres hébraïques. Donc il fallait être capable de lire pour acheter, pour vendre des choses importantes. Donc lire et écrire était une chose importante pour la vie journalière du peuple d'Israël au temps des rois. Alors pourquoi les Israélites savaient mieux écrire que les autres peuples, les alentours, comme les Ammonites, les Édomites, les Moabites, les Phéniciens au Liban, les Syriens? Eh bien, nous savons, la motivation pour écrire était les Saintes Écritures, la Bible. Ce n'est pas seulement entendre la Bible par la lecture, mais aussi d'être capable d'écrire des versets bibliques. Pour les mémoriser. Alors, on peut dire Israël est vraiment le peuple du livre. Et cela a distingué Israël des autres peuples du Proche-Orient. Même, n'est-ce pas, au Proche-Orient en général, l'écriture était une chose importante depuis des milliers d'années. Lorsqu'en Europe, on ne savait pas écrire. Mais, particulièrement en Israël. Et en Israël, avec cette écriture simple, que le peuple peut aussi apprendre. Les peuples sémites mettaient en général beaucoup de poids sur une tradition écrite bien précise. Vous voyez, c'est pour ça que vous pouvez oublier tous ces arguments que vous avez entendus. Oui, les histoires de la Bible, c'était transmis oralement. Pas le soir, on a allumé le feu, le patriarche raconte des histoires. Et voilà, les descendants apprennent en écoutant et ils vont raconter ces histoires aussi à la prochaine génération, mais bien sûr un peu changé. Donc la tradition orale, ce n'était pas la méthode au Proche-Orient. Ni en Israël, ni chez les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens. Pour eux, des textes importants devaient être transmis littéralement, justement par une écriture. Et précise. Donc, abandonner la théorie d'une longue tradition orale. C'était des idées de scientifiques du 19e siècle, ici en Europe, sans avoir connaître ce qu'on allait découvrir le 20e siècle dans la Terre du Proche-Orient. Mais lorsqu'on s'occupe de l'archéologie, il faut savoir le principe suivant. Quand j'enseigne l'archéologie, je commence par ces principes. En expliquant à mes étudiants, seulement une petite partie, ce qui existait autrefois, existe toujours dans la Terre. Seulement une petite partie de ce qui existe toujours dans la Terre est excavée. D'ailleurs, l'argent manque. Pas seulement dans les autres domaines, aussi dans l'archéologie. Malgré cela, des sceaux et des empreintes de sceaux de dizaines de personnes bibliques mentionnées dans la Bible avec nom ont été trouvées. Avec les sceaux et empreintes de sceaux, mais aussi dans les inscriptions, donc des dizaines de personnes ont trouvé leurs traces par l'archéologie. Ici, voilà un sceau et son empreinte avec l'inscription, vous pouvez peut-être lire, c'est mieux lire l'empreinte parce que, vous voyez, c'est à l'envers le sceau, pour être correct, c'est l'empreinte. Alors, là vous lisez depuis le côté droit, à gauche, « Le Ya'azaniahu Evetamelech » en français, à « Ya'azania, ministre du roi ». Ce sceau porte l'écriture de l'époque d'environ 600 avant Jésus-Christ. Vous voyez, puisque l'écriture a toujours changé, on sait aujourd'hui, vers 600, on a écrit comme ça, à 700, de cette façon, etc. Donc on peut déjà dater, pas seulement selon les couches dans lesquelles on trouve quelque chose, mais aussi selon la manière d'écrire. Donc 600 avant Jésus-Christ, et on a trouvé ce sceau à Mitzpah, en Israël. Mais ce Jazania, on connaît de la Bible, lisait en 2 Rois 25. Donc l'histoire, selon la datation des années dans la Bible elle-même, date de l'époque vers 600 avant Jésus-Christ. Ça joue, n'est-ce pas? Verset 23. Et tous les chefs des forces, eux et leurs hommes, apprirent que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone avait établi chef Guédalia. Et ils vinrent vers Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, et Yohanan, fils de Kariach, et Seraïa, fils de Tanhumet, le Netophatite, et Jaazania, fils de Maacathien, eux et leurs hommes. Alors vous voyez, ici est mentionné le même nom, Jaazania. En hébreu, Ya'azaniah, ou la longue forme Ya'azaniahu. Et voilà, ce Ya'azaniah était chef des forces, donc un chef militaire de l'armée israélienne, à l'époque de Nebuchadnezzar, qui avait attaqué Israël. Et vous voyez, il était à Mitzpah. Et ce qui est encore remarquable, c'est que ce n'est pas normal qu'on a des images sur les sceaux en Israël. Ça arrive, mais c'est pas souvent. Et ici, c'est quoi comme animal? Un coq, oui. Un coq de combat. Puisque c'était un chef de militaire. Son signe était le coq de combat. À Mitzpah, donc on a trouvé le sceau personnel de ce chef militaire mentionné dans une histoire biblique. Oui, vous pouvez dire, mais c'est important que cet homme s'appelait Jazania, qu'il était à Mitzpah, etc. Oui, on ne veut pas parler de l'importance, parce que c'est subjectif. Mais je veux dire, on contrôle quelque chose par l'archéologie, et puis on voit que même des choses apparemment non importantes sont absolument crédibles. Un autre sceau. Là-dessus est écrit « Le Berachiahu ben Neriahu Hasopher » en français, « à Baruch ». Berachiahu, c'est la longue forme de Baruch. « Fils de Nerija, l'écrivain. » Très bien. On le connaît de la Bible. Baruch, l'écrivain, était le secrétaire personnel du prophète Jérémie. Vers 600 avant Jésus-Christ. Et Jérémie, selon la Bible, avait dicté son livre à Baruch. Donc, on a trouvé le sceau, donc ici l'empreinte du sceau, personnel de Baruch, l'écrivain du livre de Jérémie. Et vous voyez, en Jérémie 36, verset 4, nous lisons dans la Bible, Jérémie appela Baruch, fils de Nerija. Et Baruch écrivit de la bouche de Jérémie sur un rouleau de livre toutes les paroles de l'Éternel qu'il lui dit. Tiens. Donc, Baruch, fils de Nérija, l'écrivain. Tous les éléments sont là. D'ailleurs, vous voyez, déjà pour Jaazaniahou, on a trouvé dans la Bible la forme courte et sur le sceau la longue forme. Et on a réalisé, par l'étude des inscriptions, qu'en général, la Bible préfère les abréviations, les noms. On a les deux. Parfois, même dans le même texte, une fois la forme courte, et puis une fois, quelques mots plus tard, la longue forme. Par exemple, le prophète Élie est appelé Élie, Élia, et plus tard il est appelé Éliahou. Voyez. Mais plutôt la forme courte. Et ici, dans la Bible, c'est Baruch, Baruch, et sur le sceau, Berechiahou. La signification est la même chose. Et voyez, en plus, ce qui devrait nous occuper, sur cette empreinte, vous avez l'empreinte du doigt, d'un doigt. C'était pour la première fois qu'on a trouvé ça sur un sceau, mais quelques temps plus tard, on a trouvé un autre sceau personnel, aussi avec l'empreinte du doigt. On pourrait supposer qu'on a fait exprès, mais ce sont trop peu d'éléments pour le dire. Mais au moins, on peut dire, il semble alors que nous avons même l'empreinte personnelle du doigt de Baruch, l'écrivain du livre de Jérémie. En main aujourd'hui. Un autre sceau porte l'inscription suivante, les Yerachmeel ben Hamelech, à Yerachmeel, le fils du roi. Fils du roi, donc ben Hamelech, c'est l'expression hébraïque pour dire prince. Tiens. Vous voyez, on a trouvé énormément de sceaux ici dans la cité de David, vers le Millo, à Jérusalem de l'Est, et là on a trouvé donc le sceau de Baruch et plusieurs autres, donc toutes ces personnes de l'époque vers 600 avant Jésus-Christ. C'était donc là une chambre d'une maison officielle, donc une sorte de poste du roi, où on a trouvé énormément de sceaux. Alors, ce Yerachmeel, ce prince, on connaît de Jérémie 36, 26. Et le roi commanda à Jérachmeel, le fils du roi, Ben Hamelech. C'est exactement les mêmes noms, Jérachmeel Ben Hamelech, comme sur le sceau, et à Seraïa, fils d'Azriel, et à Shelemia, fils d'Abdeel, de prendre Baruch, le scribe, et Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel les cacha. Donc nous avons le sceau, ou l'empreinte de sceau, d'un ennemi personnel du prophète Jérémie et de son secrétaire. Qui voulait les mettre en prison. Encore un exemple, mais je ne vais pas donner 70 exemples, n'est-ce pas, même que c'est possible. Les Seraïahou Nériahou, à Seraïa, fils de Nérija. Eh bien, c'était de nouveau une personne que nous connaissons par le livre de Jérémie. Jérémie 51-59. La parole que Jérémie le prophète commanda à Seraïa, le fils de Nérija, fils de Marseille, quand il alla avec Sédécias, roi de Juda, à Babylone, en la quatrième année de son règne. Or, Seraïa était premier chambellan. Voilà, Seraïa joue un rôle important lorsque les Juifs sont allés en captivité à Babylone. Et d'ailleurs, c'était lui, Seraïa, qui a amené les deux chapitres du livre de Jérémie, 50 et 51, concernant la destruction totale de la Babylonie, l'Irak du Sud, dans les derniers temps. Et il a lu à Babylone ces deux chapitres. C'est de Seraïa. Et nous avons son sceau, ou l'empreinte. Je viens déjà au dernier point. 5. Il n'y a pas de fossé affreux. Maintenant, nous comprenons ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et nous avons déjà un peu vu, par tous ces exemples de l'archéologie moderne, qu'il n'y a vraiment pas un fossé affreux comme... ce penseur du siècle des Lumières avait prétendu. Je parle maintenant de plusieurs exemples d'archéologie en rapport avec le Nouveau Testament. Il faut que j'explique que le Nouveau Testament est composé de 27 livres, de Matthieu, l'évangile de Matthieu, à l'Apocalypse. Et ces livres ont été écrits entre 32, l'année de la crucifixion de Christ, et 100 après Jésus-Christ. Car Jean, l'apôtre Jean, est mort comme le dernier apôtre vers 100 après Jésus-Christ, sous le règne du César Trajan.